Le Zoom de l'info. Interview. Décryptage de l'actualité des territoires.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info, le Zoom des territoires sur Radio Territoria. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la réindustrialisation de la France, qui est plus que nécessaire. Il est urgent que notre pays se réindustrialise. Et justement, pour en parler, pour en discuter, mon invité aujourd'hui est Gilles Attaf. Bonjour.
Bonjour.
Président de la certification Origine France Garantie, président des forces françaises de l'industrie et aussi président de Belleville Manufacture.
Absolument.
Alors, on va principalement parler d'Origine France, de la certification Origine France Garantie. Hein. C'est une association à but non lucratif créée en 2010. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est le but de cette association.
Alors écoutez, c'est une certification qui a été créée effectivement en 2010 par Yves Jégot, notre président d'honneur, sur une mission qu'il avait eue de Nicolas Sarkozy à l'époque, sur la marque France. En fait, on s'était aperçu qu'autour du Made in France, le code des douanes qui régit Made in France n'était pas assez rigoureux, pas assez exigeant, puisqu'en fait, le code des douanes dit qu'une opération substantielle sur le territoire français permet de pouvoir mettre une étiquette Made in France. Donc nous, on a voulu être mieux disant. En fait, l'objectif, c'est de donner de la transparence au consommateur, que lorsqu'il achète un produit qui est certifié Origine France Garantie, toutes les caractéristiques du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. Ça, c'est une des deux obligations. Et l'autre, c'est que 50% de la valeur ajoutée ou du prix de revient unitaire du produit soit français. Donc, c'est un niveau d'exigence très élevé. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est obliger les entreprises à relocaliser au maximum leur production pour effectivement que le consommateur puisse participer au modèle social français.
Donc, plus réglementé que le Made in France, au final.
Oui, c'est une certification. Donc, c'est un audit qui est fait par des organismes certificateurs complètement indépendants. Les deux plus grands étant la FNOR et le Bureau Veritas, hein, qui font des audits au sein des unités de production pour déterminer non seulement la valeur ajoutée, mais aussi que toutes les étapes sont bien françaises sur le produit. Donc, quand vous avez une certification Origine France Garantie avec le logo, vous avez un numéro de certification qui vous est propre pour votre gamme de produits, parce qu'encore une fois, nous certifions pas des entreprises, mais des gammes de produits, hein, au sein d'Origine France Garantie. Quand vous avez cette certification sur un produit, vous pouvez être sûr que le produit a participé à l'économie française et qu'il est surtout fabriqué sur le territoire français, puisque ce qui est important, c'est les emplois qu'il y a derrière.
Alors, tous les secteurs d'activité peuvent être concernés par cette certification ?
Absolument, c'est une certification transverse, hein, sur tous les secteurs d'activité. Hein, on a certifié la Toyota Yaris fabriquée à Valenciennes, la Toyota Yaris Cross qui est fabriquée à Valenciennes. On certifie des jeans comme les jeans 1083. On certifie des culottes menstruelles de la marque Elia, des gâteaux de la mère Poulard. Enfin, nous, on est sur tous les secteurs d'activité, puisque le but pour nous vraiment, c'est que le consommateur puisse, en toute transparence, acheter des produits en étant sûr qu'ils sont bien fabriqués en France.
Oui, le consommateur, vous l'avez dit, peut choisir en toute transparence et puis les entreprises peuvent se valoriser aussi. Et alors, je crois que vous avez lancé aussi en octobre 2020 cette certification pour les services, ces services France Garantie. Et ça, je pense que ça va intéresser un grand nombre de personnes.
Absolument, parce qu'en fait, on s'est aperçu, vous savez, on nous a vendu pendant 40 ans que l'atelier du monde serait en Chine et que la France serait un pays de tertiaire. Donc, du coup, nous, on était sur l'origine du produit, sur la fabrication. Puis finalement, même les services commençaient à être délocalisés. Donc, on s'est dit qu'il fallait aussi une certification qui permette aussi aux consommateurs, quand il appelle un call center, par exemple, de savoir qu'il s'adresse à une personne qui est sur le territoire français. Donc là, le socle est un peu différent. C'est qu'il faut que 90% des contrats de travail de la société soient français, de droit français. Les contrats de travail doivent être de droit français pour avoir la certification Service France Garantie et non plus Origine France Garantie, ce qui permet effectivement à des mutuelles, on a certifié Mutual par exemple, qui est une mutuelle des territoires récemment, donc d'être certifié Service France Garantie.
Et peut-être des opérateurs téléphoniques bientôt,
des opérateurs téléphoniques, des call centers. On a déjà certifié des call centers. On a certifié CRIS pour le service. On a énormément d'entreprises aujourd'hui qui demandent à être certifiées, jusqu'à la SNCF qui est en train de se poser la question de se faire certifier Origine France Garantie. Service France Garantie, excusez-moi.
D'accord. Alors, on va parler maintenant de l'industrie française. Alors, l'industrie française qui a connu une belle année 2021. Alors, j'ai quelques chiffres, hein, puisque bon, des usines ont été créées, des sites de production ont été relocalisés, c'est-à-dire rapatriés en France. Quelques chiffres, donc 30 en 2020, 87 en 2021, donc c'est plus 290%. Des emplois ont été créés. 32 155 emplois l'an passé, c'est presque aussi bien que le numérique. Alors, c'est des chiffres de Trendéo, hein, l'Observatoire de l'emploi et de l'investissement. Une réaction peut-être sur cette année 2021 ?
Bah, ma réaction, c'est qu'on part de très très loin. Hein, vous savez, aujourd'hui, vous savez, la France, au niveau industriel, c'est 10% du PIB, l'industrie, aujourd'hui. Hein, donc, si vous voulez, sur une moyenne européenne qui est à 16%. Ouais. Donc, on part de très très loin. Effectivement, ça va dans le bon sens. Il y a une dynamique sur la réindustrialisation. On en est ravis. Nous, on essaye de participer à cette dynamique aussi bien avec les forces françaises de l'industrie qu'avec Origine France Garantie. Donc, il y a une vraie dynamique. Mais encore une fois, on part de loin. Hein. On est en dessous de la moyenne européenne. On est bien loin de nos amis allemands qui sont à 25%.
C'est
derrière
les
Italiens. Les meilleurs étant les Allemands. Mais les Italiens sont très bien placés, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vraiment un pays industriel avec des ETI et des PME très fortes. Mmh. Donc, nous, on est parti de très loin parce qu'on nous a vendu effectivement que la France serait plus industrielle. Donc c'est très important pour nous d'accélérer et moi je me réjouis de toutes ces mesures qui sont mises en place autour de la réindustrialisation et qui, je l'espère, vont redynamiser les territoires parce que le sujet, c'est de redonner aux régions du dynamisme, de redonner une vision aussi aux personnes qui habitent dans les territoires, un projet de vie, un projet professionnel parce que vous savez qu'une usine, c'est un formidable moyen de relancer l'ascenseur social. L'ascenseur social qui a été fracturé parce qu'il n'y a plus d'usine en France. Et donc, dans une usine, on est en capacité de se former, d'évoluer et d'avoir un projet de vie intéressant.
Alors justement, la question, c'est comment on en est arrivé là ? Bon, il y a eu le confinement, on en a parlé. Le premier quinquennat de Macron a plutôt été le théâtre d'usines qui se fermaient, d'emplois supprimés. Mais ce n'est pas, ça ne date pas que de ce quinquennat. Comment on en est arrivé là ?
Ah ben on en arrivait là parce qu'encore une fois on nous avait vendu pendant des décennies que l'atelier du monde serait en Chine et que la France serait un pays de tertiaire et qu'on serait un pays de service. Finalement, on n'est pas devenu un pays de service parce qu'on est resté au même niveau, que on a perdu toute notre industrie et que en fait aujourd'hui on est devenu un pays qui a une forte une fonction publique très forte, ce qui explique un peu les différences de pourcentage. Mais on en est arrivé là parce qu'il y avait, je crois, tout le monde a son, j'irais, à sa part à prendre dans cette désindustrialisation, que ce soit le politique, les entrepreneurs qui ont été chercher de la marge à l'étranger dans les pays à bas coût. Donc aujourd'hui,
et les
consommateurs qui avaient envie de consommer effectivement, enfin qui avaient envie, qui consommaient des produits de moins en moins chers, sans se poser la question de savoir comment ils étaient fabriqués, dans quelles conditions. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a envie de consommer moins, mais mieux, des produits de qualité qui durent et qu'on peut recycler. Et tout ça, c'est le Made in France. Moi, ce que j'aime beaucoup dans notre dans notre dynamique, c'est qu'on s'aperçoit que finalement le Made in France, ça rejoint l'écologie, hein, ce que j'appelle moi une convergence des luttes aujourd'hui entre le social et l'écologie, puisqu'en travaillant sur le social, on s'aperçoit qu'on travaille aussi sur le volet économique, puisqu'on est dans le local, on est dans un produit local. Quand on est dans un produit local, c'est vertueux, il n'y a pas d'empreinte carbone, ça
bien
vient
sûr.
Pas du bout du monde, c'est pas un jean qui a fait 80 000 km pour revenir en France, c'est pas un t-shirt en lin. Vous savez qu'on a 80% du lin dans le monde qui est français, mais il part en Chine pour être filé, tissé, et il revient en France. Donc tout ça, c'est une prise de conscience aussi qui est poussée par le consommateur, parce que le consommateur a envie maintenant de se poser des questions et de savoir, de donner un sens à son acte d'achat. Et en donnant un sens à son acte d'achat, ça oblige aussi tous les acteurs économiques à réfléchir un peu mieux à l'avenir de notre économie.
Et là, le lin qui fait un aller-retour, c'est dramatique, hein, pour la planète.
Non seulement c'est dramatique pour la planète, c'est dramatique socialement, parce que aujourd'hui, on essaie de recréer une filière lin et c'est très compliqué, ça prend du temps. Hein. Vous savez, on a été laminé. Moi qui suis du textile, la filière textile a été totalement laminée pendant des décennies. Et maintenant, on s'aperçoit que même une filière comme le textile peut être une filière stratégique, hein, puisqu'on nous a demandé de fabriquer des masques en urgence quand on n'avait plus de masques chirurgicaux. Donc moi, je suis un militant qui dit que quelle que soit la filière, il faut à minima garder de la souveraineté économique. À minima, il faut être en capacité de produire sur notre territoire pour garder une certaine souveraineté. Mais tout ça, ça demande une vision sur le long terme. Mmh. Parce que la problématique qu'on a, c'est qu'on a une vision toujours à court terme. Hein. Mais moi, j'estime que, en tout cas, le long terme, ça se décide pas entre deux élections. Il faut vraiment un temps long pour mettre en place des sujets fondamentaux. Mais par contre, prendre rapidement des mesures pour notre industrie.
En tout cas, vous l'avez dit, toutes les parties prenantes sont responsables et ont un rôle à jouer. Le consommateur, là, j'ai l'impression qu'il y a une véritable prise de conscience qui s'opère. Alors peut-être avec les confinements, etc. L'empreinte carbone dont on parle dans tous les médias, la politique RSE, etc. Les gens, maintenant, se soucient de l'origine de leurs produits, de l'empreinte carbone, justement. La commande publique aussi a son rôle à jouer dans la réindustrialisation de la France.
Alors la commande publique, vous savez, ça peut être un formidable levier de réaccélération de nos industries dans les territoires. La commande publique, on est régi par le code européen, effectivement, mais on a des leviers aujourd'hui RSE qu'on peut activer au-delà du prix, parce que la commande publique est gérée essentiellement par le ministère du budget, donc le prix a de l'importance. Et moi, je dis que tout ça coûte très cher aux contribuables. Quand vous payez des impôts, vous avez envie que ce que vous donnez aux impôts, ça serve aussi à l'économie française. Donc ça me semble évident qu'une partie de la commande publique doit à minima revenir aux PME françaises. Hein. Nous, on milite sur un PME Business Act, c'est-à-dire comme à l'américaine, réserver une partie des achats publics aux entreprises françaises, à minima pour le local. Hein, déjà, ça me semblerait normal qu'un territoire qui fait une commande publique, elle fasse travailler son territoire sur des entreprises qui sont locales. Donc ça, c'est un sujet très important, la commande publique, parce que ça peut être un levier très puissant pour redynamiser notre industrie.
Alors après, vous l'avez dit, la commande publique est ouverte au marché européen, donc il peut y avoir des prix plus attractifs en dehors de la France. C'est pas forcément évident, du coup.
Non, mais c'est pour ça qu'on a la chance, en tout cas aujourd'hui, cette prise de conscience écologique sur la problématique de l'empreinte carbone peut faire jouer dans les appels publics des leviers un peu différents qui fassent qu'on puisse remporter des appels d'offres, bien que nos amis allemands qui sont au sein de l'Europe remportent pratiquement tous leurs appels d'offres avec des entreprises allemandes. Mais bon, nous, on a tendance à être un peu des bisounours et à pas être assez efficaces.
Et ça, comment vous l'expliquez, le top niveau de l'Allemagne ?
Ouais, parce que l'Allemagne n'a pas eu du tout la même stratégie que nous il y a plusieurs décennies, hein, notamment sur l'industrie, il y a eu de l'investissement massif, il y a eu aussi sur la formation, sur l'alternance, il y a vraiment une culture industrielle qu'on a voulu mettre en place et qu'on a poussé, hein, les Länder ont été très puissants. Il y a une culture familiale aussi d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, qui sont très puissantes et qui ont réussi à garder leurs outils de production et à pas les délocaliser. Nous, ça a été démantelé, trusté par des grands groupes qui se sont dit que c'était plus intéressant d'aller délocaliser pour trouver de la marge dans des pays à bas coût. Mais tout ça, ça marche quand on n'est pas en guerre. Hein, la mondialisation, ça marche lorsque tout fonctionne bien. Et puis là, on s'est aperçu que lorsque ça fonctionnait plus, c'était beaucoup plus compliqué à gérer.
Ouais. Et alors, justement, pour vous, quelles sont les premières étapes, les premières choses à effectuer pour que cette réindustrialisation se fasse le plus vite possible ?
Alors déjà, en ce moment, la problématique la plus grave, c'est l'énergie, hein, parce que la dynamique de la réindustrialisation qui est vraiment enclenchée, elle peut être vraiment cassée par cette problématique du prix de l'énergie. Nous, on avait quand même un avantage concurrentiel en France, qui était notre parc nucléaire, qui permettait à nos entreprises d'avoir un prix de l'énergie qui était quand même compétitif, là où sur les impôts de production, on était plus élevé que les autres, sur la fiscalité en général, dans l'industrie, donc ça nous faisait perdre de la compétitivité qu'on rattrapait un peu par ce niveau du coût de l'énergie qui est en train d'exploser. À Origine France Garantie, on a fait une étude auprès de nos adhérents où à peu près il y a eu une augmentation en un an de 65% sur l'énergie, donc c'est colossal. Donc ça, attention, danger. Moi, on a fait une tribune avec Origine France Garantie et on a tiré la sonnette d'alarme en disant attention, parce que ce mouvement de réindustrialisation de fabrication française, il peut être laminé par cette problématique énergétique. Donc il faut aider les entreprises à passer ce cap si on veut réindustrialiser en innovant, en faisant ce fameux bond en avant. Vous savez, le retard qu'on a pris, il est tellement colossal que rattraper le retard qu'on a eu, c'est même peut-être un peu trop... dangereux, et le but c'est de faire un bond technologique aujourd'hui. Donc il faut innover, faut être dans la recherche, hein. Moi je me réjouis, vous savez, on nous avait vendu la Startup Nation il y a quelques années. Mmh. Aujourd'hui on est plutôt dans la startup industrielle au service de l'industrie qui va peut-être aider de trouver de la technologie de rupture pour gagner, pour rattraper, c'est pas rattraper de leur retard, c'est passer devant les autres, parce qu'on a de l'innovation, on a de la recherche en France, on a du dynamisme, donc il faut nous donner la capacité d'y arriver.
Roland Lescure, en ministre délégué chargé de l'industrie, c'est une très bonne nouvelle.
C'est une excellente nouvelle d'avoir un ministre de l'industrie. Nous, on a besoin d'avoir des interlocuteurs. On a besoin d'avoir un ministre qui a une feuille de route avec des objectifs bien précis. Et d'ailleurs, on est prêt à l'aider, hein. On doit le rencontrer très prochainement. Donc moi, je suis très très content d'avoir un ministre de l'industrie pour avoir un interlocuteur avec lequel on peut échanger. Et puis surtout, être force de proposition avec toutes nos entités au sein de l'écosystème du produire en France.
Vous le rencontrez à la rentrée, c'est ça ?
Exactement.
Mais écoutez, vous reviendrez nous en parler à ce moment-là.
Avec grand plaisir.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles Attaf.
C'était un plaisir, merci à vous.
On se retrouve bientôt dans un prochain Zoom de l'Info.
Le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité des territoires, une émission à réécouter et télécharger sur radioterritoria.fr, l'application mobile Radio Territoria et tous les agrégateurs de podcasts.